je vais pas faire durer le suspense, le flic a été relaxé totalement.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là à des revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous écoutez l'actualité des luttes.
Comme tous les jours, du lundi au vendredi.
De 12h30 à 13h30.
Sur FPP.
Fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Et là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias, là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, monsieur.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie, là, sur nos petits, avec nos petites idées, dans un petit coin, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça ne marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.
Eh bien, bonjour, vous êtes dans l'actualité des luttes et en direct aujourd'hui. Alors, nous allons aujourd'hui parler de la violence faite aux femmes. La prison est-elle la solution ? Et tout d'abord, avant de commencer cette émission, nous tenons à préciser qu'il n'est pas question pour nous de sous-estimer ou banaliser la question de la violence faite aux femmes. Nous ne prenons pas à la légère son traitement, bien au contraire. Nous, qui nous interrogeons sur la pertinence de l'existence des prisons, nous souhaitons interroger l'une de ces justifications, la violence faite aux femmes. Nous saluons le courage de l'OIP, Observatoire international des prisons, qui s'est saisi du dossier dans son numéro d'avril 2023 et qui va nous permettre de nous confronter à la question « Est-ce que la prison est la solution ?» Nous parlons de courage tant la réponse aux crimes et délits inscrites dans la loi semble être de nature sécuritaire. Les peines ne sont jamais assez lourdes pour condamner les agresseurs et soigner les victimes. La protection des unes passe-t-elle nécessairement et uniquement par la répression des autres ? Bonjour Prune de l'Observatoire international des prisons.
Bonjour.
Voilà. Et ben peut-être pour commencer, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas noté cette question-là, mais peut-être présenter l'OIP quand même avant d'attaquer le dossier lui-même.
Alors nous, donc on est l'Observatoire international des prisons section française. On est une association loi 1901 et on a pour objet de défendre les droits des personnes incarcérées, de promouvoir les droits des personnes incarcérées et plus généralement d'avoir un impact sur les politiques pénales et pénitentiaires, de les analyser et de demander un moindre recours à l'incarcération.
Très bien. Et donc, du coup, dans ces perspectives-là, on était quand même très contentes, hein, et contents, que vous ayez traité cette question-là dans votre journal, hein, une publication mensuelle, me semble-t-il, d'avril 2023. Violence faite aux femmes, la prison est-elle la solution ? Alors, c'est c'est un dossier qui est très compliqué et on est vraiment content que vous l'ayez pris en charge. Ça, d'abord, ça va nous permettre de pouvoir en parler aujourd'hui pendant une heure, tout en sachant qu'on viendra, on n'en viendra absolument pas à bout, qu'il y a très très peu, en fait, finalement, de réflexion sur ce sujet-là. Tant la répression et l'incarcération semblent être la seule issue, la seule demande, la seule perspective pour résoudre, répondre à cette question-là. Donc on est content d'essayer. On va essayer d'aborder d'autres prises en charge, mais ce n'est pas évident parce qu'elles sont relativement peu importantes et peu intéressantes, très peu subventionnées en France pour le moment. Donc on va pouvoir en discuter ensemble. Alors pourquoi vous avez fait ce dossier ?
Alors déjà peut-être, il me semble que vous avez dit mensuel, on est sur une publication qui est plutôt trimestrielle.
Ouais, d'accord, ok. Et autant pour moi.
Et en fait, dans chaque numéro de notre revue Dedans Dehors, on va décider de consacrer un dossier à une thématique qu'on va aller creuser, où on va à la fois faire des enquêtes de terrain. Alors on a des remontées à travers les sollicitations qu'on a des personnes détenues et des proches de personnes détenues. On a une permanence téléphonique et courrier. Souvent, en fait, on a des retours de ces personnes qui nous encouragent à nous saisir d'un sujet à un moment donné, à se dire bon, là, il y a vraiment une récurrence ou un côté systémique dans les problématiques qui nous sont remontées. Et puis en parallèle, on va aussi avoir tous les correspondants qu'on appelle intramuros qui vont témoigner de choses qui se passent entre les murs ou en amont sur la question des politiques pénales. Et puis le troisième volet, des analyses des politiques pénales, donc tout ce qui se passe au niveau des orientations gouvernementales, des textes de loi, etc. Et donc là, sur ce sujet-là, il y a eu plusieurs choses qui nous ont conduit à nous saisir de cette problématique. D'abord, on a commencé à recevoir quand même pas mal de sollicitations de compagnes d'hommes détenus qui souhaitaient aller voir leur compagnon qui avait été incarcéré pour des raisons pour violence intrafamiliale, donc souvent à l'encontre de la compagne en question. Et ses compagnes se retrouvaient dans l'interdiction d'accéder au parloir, sans forcément qu'on leur explique vraiment ce qui se passait. Et en fait, c'est une décision qui est laissée relativement libre au chef d'établissement, qui ne nécessite pas nécessairement une interdiction du juge. Donc on a commencé à recevoir des sollicitations à cet endroit-là, et puis il y a eu aussi des juges d'application des peines qui commençaient à mentionner beaucoup plus régulièrement en fait la part que prenait dans leur travail au quotidien la question des violences faites aux femmes. Et puis en parallèle, au niveau d'analyse des chiffres, des politiques pénales, de ce qui se passait au niveau plus politique, on s'est rendu compte qu'en fait il y avait de plus en plus d'affaires qui étaient traitées par la justice. Qu'il y avait une augmentation de la part des poursuites pénales. Donc, c'est-à-dire que, alors assez logiquement, plus on a d'affaires qui sont enregistrées par la justice, qui sont traitées par la justice, plus on va avoir de poursuites pénales. Mais ce qui était intéressant, c'est que cette augmentation, elle s'accompagnait d'un rééquilibrage entre ce qui allait faire l'objet d'une poursuite pénale et ce qui allait faire l'objet d'alternatives aux poursuites. Et donc, si vous voulez, dans les années 2015, c'était quasiment moitié-moitié. Et en fait, en 2021, on avait 2/3 de poursuites pénales contre 1/3 d'alternatives aux poursuites. Donc, en parallèle de l'augmentation, il y avait vraiment une prédominance des poursuites pénales. Et puis, ça conduisait à une augmentation du nombre de condamnations. Et dans ces condamnations, en fait, la peine principale, mais comme beaucoup d'autres faits aussi, c'est la prison. Majoritairement avec sursis, mais aussi en parallèle évidemment du ferme et donc une augmentation des peines de prison ferme. Et en fait, on s'est rendu compte en 2022, on avait 15 000 personnes détenues en France qui étaient incarcérées pour des violences conjugales ou sexuelles, ce qui correspond quand même à 30% des condamnés détenus. Alors, pas des personnes détenues en général, parce qu'il y a aussi tous ceux qui sont en attente de jugement, hein, qui ne sont pas comptabilisés dans ces chiffres-là. Et donc, en fait, bon, si vous voulez, c'est pas que spécifique à la question des violences faites aux femmes, parce que ce qu'on voit, c'est que dès que les thématiques sont mises au cœur des politiques gouvernementales, en fait, il y a des encouragements, des incitations à accentuer la répression pénale à cet égard-là. Et donc, en fait, on a constaté, un peu dans le sillage de MeToo, de la dénonciation croissante des féminicides du Grenelle, mais aussi, finalement, d'un changement en fait, de politique gouvernementale dans la manière d'aborder ces questions-là. Ils ont voulu en faire une priorité. Et donc, on s'est retrouvé à de la répression pénale plutôt que de se mettre à réfléchir en fait, aux causes de ce phénomène et de comment l'aborder sur le long terme. Il y a cette volonté d'avoir un affichage politique, médiatique, pour dire, voilà, on y répond.
Et on y répond par la violence de l'incarcération et la longueur des peines, comme à peu près, de toute manière, tous les phénomènes qu'il peut y avoir en termes de délits et de crimes. Peut-être à ce moment-là de l'émission, ce serait bien de faire un petit point de vue historique, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Alors évidemment, il y avait une banalisation des violences faites aux femmes, des viols, etc., de l'inceste aussi, jusque dans les années 80-90. C'était des choses dont on ne parlait pas, qui étaient tues et qui n'étaient quasiment pas poursuivies d'ailleurs, puisque on avait l'impression que c'était une espèce de normalité. Et c'est vrai que toutes ces dénonciations, ces campagnes, ont permis de visibiliser ces phénomènes. Et du coup, c'est après sur la réponse qu'on est en train de réfléchir. Hein. Mais ça n'a pas toujours été le cas, puisque dans les années même 70, il y avait des mouvements féministes extrêmement forts liés à une demande de dépénalisation de l'avortement et puis du droit des femmes à la sexualité, à tout ce qui pouvait permettre de pas tomber enceinte pour cela. Et du coup, une méfiance en tous les cas de la part des réponses pénales, lié justement à l'interdiction de l'avortement. Donc une suspicion plus grosse par rapport à c'est pas la prison qui va régler les problèmes. Là, on assiste plutôt depuis les années 2000 à la fois une visibilisation et en même temps une volonté de la part d'une partie des mouvements féministes d'une réponse pénale forte. Et plus elle serait forte, et plus elle serait prise en compte, en fait. Et elle permettrait de répondre à ce problème. Hein. De toute manière, on le voit bien au niveau des chiffres, hein, ça concerne énormément de femmes. Vous avez essayé d'aborder un tout petit peu cette question aussi, un petit peu historique, vite fait, hein, parce que le dossier fait quand même qu'une douzaine de pages, donc rien que sur l'histoire du féminisme et des luttes contre les violences faites aux femmes, il en faudrait des bouquins, il y en a d'ailleurs. Donc vous avez essayé au moins d'aborder un tout petit peu cette question-là pour dire, en tous les cas, que ça n'a pas toujours été une réponse demandée par les mouvements féministes, c'est-à-dire l'incarcération, la pénalisation des violences et du viol.
Oui, alors dans le dossier, on a effectivement pu interviewer un historien, Jean Bérard, et puis Gwenola Ricordo, qui est militante abolitionniste et professeure en justice criminelle. Et en fait, effectivement, là, on s'ancrait un peu plus dans une approche historique. Et ce qui était intéressant, c'était même peut-être pas tant l'approche historique en tant que telle, c'était de montrer comment les différentes approches de ces questions-là, au fil du temps, mais en fait, poser des questions intéressantes qu'il fallait aussi reposer aujourd'hui. Et effectivement, entre... trouver cet équilibre entre il faut avoir une reconnaissance évidemment sociale, politique, juridique des violences faites aux femmes, mais en fait c'est un peu éternellement cette question, en tout cas nous à l'OIP, qui est quand même très prégnante, c'est de questionner cette place centrale systématique de la prison comme réponse. C'est-à-dire on veut répondre juridiquement, politiquement à une problématique. D'accord, personne ne remet en cause cette problématique. La question, c'est comment on y répond. Et est-ce que vraiment le traitement pénal qu'on en fait aujourd'hui, c'est une solution qui tient la route? Et en fait, c'est là où... Alors, je vais peut-être apporter quelques éléments là-dessus, mais avant, je trouve ça intéressant quand vous dites il y a des mouvements féministes qui demandent l'incarcération, d'autres qui ne le demandent pas. Bon, je pense que, évidemment, il y a eu des ancrages historiques où il y a eu des prédominances différentes. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que, en fait, souvent, cette réponse pénale de la prison, on va la mettre au service des victimes, enfin, au nom des victimes. En réalité, ce dont on se rend compte, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'études sur ce que voudraient les victimes. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut individuellement, à chaque cas, demander à la victime « qu'est-ce que tu souhaiterais comme réponse pénale à la violence dont tu as fait l'objet ?» Parce que ce n'est pas comme ça que la justice fonctionne aujourd'hui. Mais en tout cas, même collectivement, si on veut réfléchir à quel type de réponse on va apporter aux victimes, peut-être que ça vaudrait le coup de faire des études là-dessus et de leur donner une véritable place, parce que vraiment la seule place, en tout cas la place principale qu'elles ont, c'est celle qu'on veut bien leur attribuer et en fait où beaucoup de personnes parlent en leur nom. Et c'est assez intéressant dans l'interview avec Gwenola Ricordo, elle revient sur 5 besoins essentiels des victimes qui ont été théorisés par Ruth Morris. Y a cette question notamment donc, du reconnaissance du préjudice subi. Alors, en réalité, il est quand même assez rare qu'il y ait une condamnation par le système pénal par rapport au nombre de faits potentiels qui existent. Il y a un besoin de vérité. Or, c'est pas du tout l'objet en fait, de la justice pénale de dire quelle est la vérité. En tout cas, on n'est pas sur les mêmes... niveau de vérité, je dirais, de donner un sens, c'est pareil. En fait, la justice pénale n'est pas là pour ça. Y a un besoin de réparation et un besoin de sécurité. Et en fait, elle souligne que c'est un petit peu paradoxal avec le parcours du combattant que ça peut être pour une victime d'en arriver jusque-là, de se dire que en fait recourir à la justice pénale, ça va lui apporter de la réparation et de la sécurité. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ça vient questionner aussi, mais même là-dessus, en fait, de quelle sécurité parle-t-on ? Parce que éventuellement, on peut être dans une réponse, provisoirement, la prison, ça va permettre de mettre à l'écart la personne de la société. Mais en fait, sur le long terme, qu'est-ce que ça va donner ? Et ça, c'est vraiment le point qu'on souligne jamais.
En sachant en plus que la prison est quand même un endroit hyper violent, où souvent les détenus pour ce type de délit font l'objet de violences intramuros, quand même, et que du coup ils sortent sans ayant compris grand chose des actes qu'ils ont commis, et même dans le dossier que vous avez produit, vous signalez d'une manière assez précise que plus les peines sont longues et plus la récidive est fréquente. Elle intervient dans plus de 50% des cas. Donc aussi, on se rend compte que la prison, dans ce cas-là, n'est pas, d'ailleurs dans tous les cas, n'est pas une réponse, en tous les cas, qui permette de comprendre et de faire avancer la situation, puisqu'en plus, c'est une réponse individuelle et pas du tout qui interroge l'ensemble de la société, qui est elle-même hyper violente. Peut-être faudrait s'interroger d'une manière beaucoup plus large sur cette question de violence, de la place des femmes, des rapports par rapport au corps des femmes. Pourquoi dans autant de couples il y a de la violence, qui l'exerce, pourquoi, comment, et puis comment après y répondre, mais d'une manière efficace, pas juste par répondre par la violence elle-même, quoi.
Oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas uniquement sur des questions théoriques. Je parlais de donner aussi une parole aux femmes pour comprendre de manière globale, sociétale, en fait, quelle pourrait être la réponse à donner. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a des femmes victimes avec qui on a pu échanger dans le cadre du dossier et qui disent elles-mêmes, en fait, qui disent « moi, c'est pas ce que je voulais ». Moi, ce que je voulais, c'était une prise en charge psychologique, c'était des soins, et c'était au moins, en tout cas, une prise de conscience. C'était que ça ne se répète pas. Et en fait, la seule réponse qui leur est proposée à ce moment-là, c'est une réponse, donc en général, d'incarcération. Et il y en a qui témoignaient en disant, mais si j'avais su, en fait, je ne serais pas allée là-dessus, parce que moi, je ne voulais pas qu'il soit incarcéré pendant potentiellement plusieurs mois, plusieurs années. Et puis en plus, ce que je constatais, c'est qu'il ne comprenait pas ce qui lui arrivait, qu'il ne remettait pas en cause ce qu'il avait fait. Et donc, finalement, ce n'était pas du tout ce que je venais chercher. Et le risque en plus, c'est que ces femmes-là, finalement, derrière n'est plus recours. Je veux dire, si les faits se répètent, en fait, qu'est-ce qui va les encourager à recourir de nouveau à la justice alors que elles n'ont pas eu la. Enfin, en tout cas, elles ont eu quelque chose qui, d'abord, n'a pas répondu à leurs attentes et, en fait, potentiellement, a été contre-productif. Et c'est là où je reboucle avec ce que vous disiez avant. En fait, l'incarcération, c'est quand même une solution dont on parle de manière très abstraite. Ce qui se passe, c'est qu'on met ces personnes dans des prisons qui aujourd'hui, pour remettre quand même un peu le contexte, sont des prisons surpeuplées. Donc on est dans les maisons d'arrêt. Donc là où sont envoyées ces personnes-là, on est sur une moyenne qui avoisine les 150% d'occupation, avec certains établissements où on va à 200%, voire encore plus. On a des conditions indignes de détention. On n'arrête pas d'être condamné, la France, par soit les tribunaux nationaux, soit européens. On a donc ça, c'est le contexte général.
Ouais. Et pour aller dans ton sens, dans le contexte général, c'est qu'en plus, il n'y a pas de prise en charge particulière à l'intérieur de la détention. Il n'y a pas de psy, il n'y a pas de médecin, il n'y a rien du tout. Donc du coup, ça aussi, c'est un problème. Et que c'est vrai que la violence qui est exercée sur les personnes détenues est peu propice, comme tu le disais, à une prise de conscience des actes qu'ils ont produits.
Mais effectivement, donc on a en termes de soins. Alors, la question des soins, je fais une mini parenthèse parce qu'il y a tellement de sujets qu'on ne pourra pas tout creuser. Mais je pense que ça vaut le coup quand même de juste avoir en tête que ce n'est pas non plus évident de se dire qu'il faut des injonctions aux soins qui soient prononcées par les juges, parce que les juges, ce ne sont pas des soignants. En tout cas, c'est quelque chose qui mérite aussi d'être questionné. Quand on dit qu'on voudrait qu'une grande partie des sanctions, ce soit finalement qu'on oblige les personnes à suivre des soins. Mais donc, en prison, effectivement, on a une prise en charge ultra carencée sur la question des soins psychologiques. Aujourd'hui, envoyer une personne en maison d'arrêt, alors déjà en prison, on a de la carence. Mais en plus, en maison d'arrêt, on a une surpopulation telle qu'en fait, la réalité, c'est que les personnes, elles sont 23 heures sur 24 dans 9 mètres carrés avec deux autres personnes, donc sans activité, sans suivi, etc. Ça vaut pour les psychologues, ça vaut pour les addictologues, quand on sait qu'il y a beaucoup d'addictions aussi qui sous-tendent les violences dont il est question.
Mais c'est hyper important là, parce que qu'on va peut-être pas le répéter, mais donc du coup c'est bien d'appuyer sur ces questions-là. C'est que souvent les auteurs de violences sont des gens qui ont des problèmes d'addiction, que ce soit à l'alcool ou à la drogue. C'est important de le dire, parce que ça veut dire aussi que c'est là-dessus aussi peut-être qu'il faut travailler, et que il n'y a pas forcément le temps, ni l'argent, ni les spécialistes pour le faire, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, parce que c'est une vraie catastrophe à l'extérieur, donc on peut imaginer ce que c'est à l'intérieur.
Oui, et puis plus généralement, vous l'avez suggéré tout à l'heure, mais en fait, on décide d'enfermer dans un milieu qui est quasi exclusivement masculin, où il y a des rapports de force, des tensions, de la violence de manière quotidienne, des personnes à qui on reproche d'avoir été violent. Donc il y a quand même quelque chose d'assez fou de penser que la prison, finalement, va être un lieu où les auteurs de violences faites aux femmes vont pouvoir déconstruire toutes les normes qui sont liées à la virilité, au patriarcat. Il y a quelque chose de complètement...
paradoxal.
Voilà.
Carrément. Je voulais juste faire une toute petite incision sur la question aussi des réponses ou des réflexions qui ont pu avoir lieu, notamment dans les années 70, quand il y avait cette période plutôt de réflexion anticarcérale, où en tout cas on remettait en question la réponse carcérale. Et il y a eu énormément de textes ou de réflexions, notamment produites par le GIP, le CAP, donc les comités information prison, les groupes information prison et les collectifs d'action prisonniers, dans les années 70. 70 et 80. Tout ça pour dire que cette littérature, elle existe en France. On n'est peut-être pas obligé d'aller chercher toujours aux États-Unis pour trouver des petites réponses. Qu'il y a des choses qui se sont passées en France aussi sur cette question-là. Et notamment, moi, j'avais lu aussi un livre sur beaucoup de femmes qui avaient été incarcérées ou qui avaient été victimes de viols ou de violences, qui justement disaient, même moi qui étais l'objet de violences, je suis contre la prison et je ne pense pas que ça puisse être la solution. Donc déjà, c'est des choses qui existent depuis pas mal de temps, quoi. Et voilà, enfin, c'était juste pour dire que ce serait bien de revenir un peu à la lecture de ces textes aussi et de reprendre le travail qui avait été effectué dans ces années-là pour trouver d'autres réponses que l'incarcération à ces questions de violences faites aux femmes.
Oui, alors c'est sûr, c'est que les luttes féministes anticarcérales, elles ne sont pas nouvelles. Ce n'est pas tout à coup, on se dit face à ce flot de réponses pénales et de place que prend la prison dans le traitement de ces violences, que tout à coup, on se dit qu'il faudrait peut-être penser le féminisme d'une manière détachée de la prison. C'est effectivement une question qui a déjà été traitée. Et...
On va passer une petite pause musicale.
Mes potes, on vient de me saper. À Dillon, j'ai 20 piges de trick. Au dur, je pouvais pas échapper, puisque j'ai tiré dans un flic.
Au Prévent, souvent j'ai pensé que vous me prenez pour une belle truffe. Notre amitié, ça a dû passer. Et vous, mes potes, vous êtes des muffins.
Depuis 8 mois, je suis dans le tombeau. Où que j'ai croûté leur salpitance. Les faillots de la flotte, c'est pas beau m'avoir laissé sans assistance.
Pourtant, moi j'étais pas envieux, un peu de perlot et de la croustille m'aurait rendu tellement joyeux que j'aurais gueulé, vive la courtille.
Biscuit, néné, c'est le môme Toto. Pour vous, j'ai tout pris sur le rable. Ne charriez pas, vous, mes poteaux, et montrez-vous plus secourable.
Me poussez pas à causer de vous. Ici, on aime ceux qui bavardent. Moi, je préfère crever au trou plutôt que passer à la moucharde.
Voilà, c'est mon dernier bifton. J'attends votre prochaine babillarde. En y songeant comme un micheton, je chiale dur et le cœur me larde.
Et pour finir, c'est un adieu de l'homme que fut toujours Blaise.
Rue de la Santé, 42, deuxième division, 76.
À l'écoute de l'actualité des luttes et on est avec l'Observatoire international des prisons pour parler des violences faites aux femmes. La prison est-elle la solution ? Donc on va continuer sur cette question d'incarcération, hein, de traitement judiciaire des violences faites aux femmes. Alors, violence, c'est à la fois intra-conjugale dans le couple, mais c'est aussi, et peut-être on en parlera après, mais la question des viols et de l'inceste, évidemment, donc des violences en général. Alors, on est dans un renfort de communication là depuis quelques années. Donc, c'est les numéros verts, les opérations de communication et même le quinquennat qui est la question du féministe, la grande cause du quinquennat de Monsieur Macron. Hein, donc, on y va. Il y a quand même beaucoup de communication sur ces questions-là. Et la réponse, une fois de plus, on en a parlé depuis le début de cette émission, semble être prioritairement, majoritairement, une réponse pénale, c'est-à-dire une réponse de prison, d'enfermement. Peut-être on va continuer un peu sur cette question-là pour voir un petit peu le nombre, parce que là, ça a explosé depuis une dizaine d'années, plus précisément ces dernières années.
Oui, effectivement. Donc on disait tout à l'heure, aujourd'hui, il y a 15 000 personnes qui sont condamnées, détenues pour ces raisons-là. C'était fin 2022 dans les prisons françaises. Et en fait, ça correspond donc à une place majoritaire de la prison dans la réponse pénale, qui est très, très fortement du sursis. Donc c'est des personnes qu'on condamne à de la prison, mais on leur dit là, a priori, tout de suite, vous n'allez pas en prison. Mais en fait, au moindre faux pas, ou si vous respectez pas toutes les conditions qu'on met en parallèle, vous irez en prison. Mais en fait, même dans la prison ferme, du coup, dans les sanctions où la personne va directement en prison, il y a une très, très forte augmentation. Et le nombre des peines de prison ferme a doublé, en fait, les 5 dernières années. Donc c'est un chiffre... même si, de manière générale, ça vaut le coup de se poser la question du sens de la prison, je pense que sur cette thématique-là, quand on a une telle explosion, en fait, là, on peut vraiment plus faire l'impasse là-dessus. On parlait du caractère, finalement, protecteur sur un très court terme de la question de l'incarcération. En fait, si on a la mise à l'écart qui, sur le long terme, ne fonctionne pas, on se retrouve avec uniquement le caractère punitif de la prison et on revient pas du tout sur l'objectif de réinsertion qu'est censé avoir aussi la prison. Quand on condamne quelqu'un à la prison, normalement, c'est qu'à un moment donné, elle va sortir de prison, elle va retrouver une place dans la société et l'idée, c'est quand même qu'elle la retrouve dans un contexte peut-être différent d'avant.
Ouais. Et j'ai l'impression que ça a été quand même largement abandonné depuis pas mal de dizaines d'années, hein, puisque... ouais, enfin, bon, mais bon, effectivement. Et la question qu'on peut se poser aussi, bon, mis à part le fait que la question de la violence, elle est aussi sociale, politique. Je veux dire, il y a quand même beaucoup de gens qui sont, la population, la violence augmente, que ce soit en termes de travail, conditions de travail, absence de travail, absence de revenus, absence de logement, absence. Toute cette violence-là, elle impacte les individus. Et du coup, cette violence rentrée, elle explose vers souvent les plus fragilisés par la société, les femmes, les enfants. Une fois de plus, on est obligé de le dire, on est obligé, si on a envie de traiter sérieusement en plus ces questions-là, on est obligé de se poser la question de la violence d'une manière générale, du système qui génère lui-même de la violence, et après aussi des rapports entre les hommes et les femmes. On est obligé de se poser ces questions-là, mais aussi d'une question, d'une façon structurelle, c'est-à-dire concernant une critique du système capitaliste lui-même, patriarcal. Sans ça, on passe à côté de l'essentiel, quoi. Bon, ça, c'était une petite aparté. Avant d'attaquer aussi la question de la justice de classe, parce qu'on se rend compte qu'au fur et à mesure que ces délits et ces crimes arrivent dans l'appareil pénal, un certain nombre de personnes vont en être écartées. Hein. On a quand même pas mal ces derniers temps d'exemples, même de ministres haut placés ou de grands réalisateurs dans les milieux artistiques, etc., où on se rend compte qu'il y a pas mal quand même aussi de violence, hein, n'est-ce pas, et qui ne sont pas du tout condamnés, hein, puisqu'ils sont toujours en poste. Donc ils sont pas poursuivis. Donc on se rend compte aussi que ceux qui sont poursuivis, ceux qui finalement se retrouvent en prison, ce sont souvent les mêmes, c'est-à-dire les personnes précaires, les pauvres, les personnes issues de l'immigration qui vont essentiellement se choper une réponse carcérale à leur violence.
Oui, et peut-être juste pour compléter là-dessus, moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est que finalement, en faisant cette réponse politique, cet avéchage sécuritaire, de dire voilà, on traite la question, on a compris que c'était une problématique importante, et en fait, du coup, on va, comme d'habitude, répondre de manière par la répression pénale. En fait, on fait croire aussi que ça permet de répondre à tout. Et au-delà du fait qu'on répond pas à la problématique de fond, on s'intéresse pas aux causes, comme sur beaucoup d'autres choses sur la prison. En fait, on traite juste la conséquence dans une vision court-termiste. C'est qu'en plus, on occulte le fait qu'il y a toutes ces violences qui soit n'arrivent même pas devant la justice parce que les victimes n'y voient pas la solution à leur problématique, soit en fait au fur et à mesure du traitement par la justice, il ne va pas y avoir de réponse qui va être apportée aux violences qui ont été commises. Donc je pense qu'on va arriver, là, j'imagine, à la question de qu'est-ce qui existe d'autre que la prison dans ces cas-là et peut-être avoir une analyse aussi un peu critique de ce qui existe. Mais cette réponse alternative, elle est importante. Un, parce que la réponse pénitentiaire, elle est, on l'a vu, insuffisante, voire absurde, en fait, contre-productive. Mais qu'en plus, il faut bien avoir une réponse pour toutes ces autres violences auxquelles, aujourd'hui, on ne répond pas.
Donc là, on attaque toutes les petites réponses. C'est parti. Donc, toutes les réponses en dehors de l'incarcération, du sursis. Même si, tu le disais tout à l'heure, dans le sursis, il y a des injonctions dont j'imagine on va parler, puisque il y a à la fois... alors, je ne sais pas par quoi commencer. On peut commencer par le bracelet, par exemple. Donc, le bracelet. Le bracelet, l'électronique, ça marche très fort, que ce soit dans plein de délits, mais notamment aussi dans celui-là, c'est-à-dire un bracelet qui permet de localiser l'auteur des violences pour pas qu'il se rapproche de la personne qui a été sujet aux violences. C'est ça?
Oui, oui. Et en réalité, c'est même un peu plus subtil que ça, parce que c'est pas uniquement dans les faits, en fait. En réalité, c'est pas uniquement que l'auteur ne s'approche pas de la victime, c'est qu'il n'y ait pas de rapprochement entre les deux. Et c'est un peu aussi tout ce qui est questionnable sur cette question du bracelet anti-rapprochement, c'est que ça mène parfois à des situations un petit peu absurdes où, alors il y a un système de zone de préalerte, zone d'alerte, selon que les distances diminuent, du coup. Et en fait, où ils peuvent se retrouver dans la situation où ils vont appeler un auteur en lui disant là, la distance est en train de diminuer, il faut que vous vous déplacer, sauf qu'ils peuvent... En fait, c'est la victime qui est en train de se rapprocher, sauf qu'on ne peut pas dire à l'auteur dans quelle direction va la victime, et donc on ne peut pas dire à l'auteur dans quelle direction il faudrait qu'il aille pour s'éloigner.
Parce que là, ce que tu es en train de dire, c'est que le bracelet, il est autant sur la victime que sur l'auteur.
Alors, c'est l'auteur qui est équipé d'un bracelet, mais en fait, les deux sont géolocalisés en temps réel par des balises GPS. Et effectivement, alors peut-être déjà plus généralement sur la question du bracelet, on l'évoque, mais c'est en soi, ça vient en complément d'une interdiction de rapprochement. C'est pas quelque chose a priori qui est pensé véritablement en alternative, tu vois, comme une sanction qui ferait le poids par rapport à la prison. C'est plutôt, je dirais, un outil qui vient concrétiser une interdiction de rapprochement pour s'assurer qu'elle soit respectée. Par l'auteur.
Ça fonctionne. Comme tu disais, c'est
justement,
un peu compliqué.
Je suis peut-être allée un peu vite en parlant directement de ça, mais il y a aujourd'hui ce qu'on constate. Déjà pour donner peut-être une idée, il y en a à peu près un millier qui sont actifs aujourd'hui. C'est assez récent, ça a été prévu fin 2019 par une loi. Ce qui est aussi assez intéressant, c'est de voir que c'est quelque chose qui est prononçable à tous les stades en fait de la procédure. Donc c'est pas forcément on parle auteur-victime. C'est pas forcément quelqu'un en tout cas qui, au sens de la justice, est déjà auteur et victime, puisqu'il n'y a pas eu forcément encore de condamnation.
C'est en prévention, c'est en attente du procès.
Ça peut être les
ça
deux.
Ça peut être, ouais, d'accord.
Ça peut être les deux. Ça peut être au civil aussi. C'est pas forcément au pénal. Et après, effectivement, ça pose plein de questions d'ordre pratique où finalement il y a donc cette situation un peu absurde où finalement on ne sait plus comment gérer pour dire à la personne supposée ou autrice de s'éloigner de la victime. On a plein d'alertes et du coup il y a des juges d'application des peines qui témoignaient et qui disaient mais en fait pour 10 bracelets en cours je vais avoir 30-40 rapports dans la journée, parce que chaque alerte ça donne un rapport. Chaque rapport, c'est traité par le procureur, par le service d'insertion et de probation, par le juge d'application des peines. Donc, c'est un sacré... Et au-delà de la surcharge à laquelle ça mène, il y a un vrai risque, en fait, que les vraies alertes Parce que souvent, c'est des pertes de signaux de géolocalisation ou je sais pas, il y a une personne qui va passer sur l'autoroute et en fait, il s'avère que cette autoroute, elle n'est pas très éloignée du domicile de l'autre personne. Enfin, et en fait, on va noyer dans la masse les vraies alertes et potentiellement leur donner moins de rapidité et d'efficacité dans la réponse.
Ouais, donc, c'est pas forcément génial. Sans ça, on voulait aborder aussi la question du stage de responsabilisation. Alors moi, ça m'a fait penser au stage de citoyenneté. Alors, par rapport au bracelet, juste, c'est vrai, j'ai oublié aussi de le mentionner, c'est qu'on se rend compte que c'est une peine supplémentaire. Hein. Donc, on n'est pas dans les alternatives. Hein. On n'est pas dans l'alternative puisque la personne, elle n'est pas en prison. Elle n'aurait pas été forcément en prison. Mais bon, voilà, c'est une manière de protéger une femme qui a été l'objet de violence.
Oui, c'est un outil de sécurisation, voilà, en fait.
Plutôt. Supplémentaire. Ouais. Donc là, il y a le stage de responsabilisation. Donc, je disais que ça faisait penser au stage de citoyenneté. Alors, c'est quoi ce truc? Parce que j'ai envie de dire, c'est un truc quand même. Hein, c'est
moi, pas... Du coup, la première chose qui m'a choquée en lisant le dossier, c'est que du coup, c'est un stage qui dure un jour et demi en moyenne, c'est bien ça?
Ouais, un jour et demi, deux jours en général, ouais.
Ah, c'est comme les problèmes routiers. C'est-à-dire, quand on n'a plus de points, on va faire un stage.
Alors, j'ai déjà entendu cette analogie, effectivement. Alors, les stages de responsabilisation, c'est un peu plus vieux. Ça fait 20 ans à peu près que ça existe. Effectivement, c'est une journée et demie, voire deux jours. C'est aux frais de la personne qui participe, autour de 250 euros en général. Et en fait, c'est un lieu où on va faire intervenir différents types d'intervenants. Ça va être des psychologues, des travailleurs sociaux, des juristes, des addictologues. Et l'objectif, en tout cas, selon la loi, c'est de rappeler le principe d'égalité de genre, de respect conjugal, et puis venir faire prendre conscience les auteurs de la responsabilité qu'ils ont dans les faits qu'ils ont commis. L'objectif étant de prévenir la récidive.
Deux jours, ça va faire un peu léger. Hein.
C'est un peu léger, ouais. Et pourtant, c'est massivement utilisé en alternative aux poursuites. Donc là, on reparlait tout à l'heure de un peu le traitement par la justice des affaires. Là, on va souvent être dans la partie pas réponse pénale, mais dans la partie alternative aux poursuites. Alors après, ces stages, ils sont, enfin, on va peut-être aussi souligner les choses qui peuvent être intéressantes à l'égard, même
quand
si
même,
c'est pas,
il y en a peut-être,
c'est pas satisfaisant, mais ces stages, c'est aussi des espaces qui permettent d'informer sur le droit. Ça permet aussi d'être un espace d'éducation à la justice, où les personnes vont pouvoir potentiellement trouver plus facilement des informations sur les addictions, par exemple, sur les possibilités de prise en charge.
Alors là, c'est pareil, hein, on fait quand même un petit truc vite fait, mais quand on voit les problèmes qu'il y a actuellement dans les services hospitaliers, psychologiques, etc., et qu'il faut attendre je ne sais pas combien de mois pour avoir un premier rendez-vous, ça paraît aussi très compliqué. Enfin, c'est important de le dire aussi, quoi. Parce qu'il y a des tas de possibilités aujourd'hui, mais alors pour y avoir accès, c'est quand même une méga galère, quand même.
Oui, c'est sûr, on est dans un contexte de d'énormes carences de moyens, mais du coup, je rebondis sur la parenthèse.
Ouais.
Mais c'est vrai que c'est intéressant aussi la question du coût de ces mesures, et en fait, surtout, oui, de ce que ça coûte si on veut offrir une prise en charge qui soit pertinente et qui soit vraiment dans un objectif de long terme. Et ça, c'est... Pareil sur la prison, les moyens ils existent puisque aujourd'hui on met des millions voire des milliards dans la construction de nouvelles places de prison, dont on constate, alors est-ce que c'est la poule ou l'œuf, on ne sait pas, mais en tout cas on constate que ça s'accompagne de toujours plus de personnes détenues. Et en fait, si on voulait mettre l'argent, les finances publiques dans d'autres types de réponses, cet argent on sait aussi où le trouver.
Carrément. Non, mais c'est hyper important. Mais parce que c'est important de dire qu'une journée d'incarcération, c'est pas zéro centime. Hein.
Ah ben non, on est ça plutôt coûte autour très, de 100
très,
euros.
Ça coûte très, très cher. Et là, pour donner un exemple bon, qui n'est pas tout à fait le même, mais c'est vrai que quand on voit qu'au Portugal, la dépénalisation des drogues et que l'argent qui était mis dans la répression a été déplacé à la prévention, ça a gagné, quoi. Ça a marché. Donc c'est vraiment une volonté politique que de mettre l'ensemble de l'argent sur le contrôle, la répression, l'enfermement, et pas le mettre justement dans l'accompagnement, la prise en charge, santé, mais aussi politique. Enfin, je veux dire les logements, enfin prendre en charge tout ce qui va pas et qui conduit à la violence. C'est un choix politique, quoi. Ça,
oui, c'est
clair.
Exactement ça. En fait. Toutes ces questions-là, on est sur des problématiques de... Il faut changer de manière de traiter les choses, de voir les choses. Et en fait, l'argent, les moyens, ils existent. Il faut juste redispatcher et repenser pour, encore une fois, s'intéresser aux causes et aller vraiment chercher... les violences, c'est pareil. Si on ne traite pas les violences à la racine, en fait, à quel moment on pense qu'on est en train de prévenir la récidive, puisque c'est ça l'objectif aussi qui est toujours mis en avant par...
Carrément. Carrément. Surtout qu'on sait que souvent, les auteurs de violences ont été eux-mêmes... victimes de violences, que ce soit dans un univers, ils ont grandi dans un univers hyper violent, ou ont été eux-mêmes victimes de violences. Donc on se dit peut-être, si on prend le truc à la racine, peut-être qu'on aura peut-être un peu plus de chance de ne pas reproduire éternellement des cycles de violences. Alors là, on va aborder quand même le centre de prise en charge des auteurs dont avant d'attaquer ça.
Oui, parce qu'on n'a pas dit grand-chose sur les stages de responsabilisation. Moi, je voulais juste... Parce que c'est quand même c'est intéressant parce que c'est quand même massivement utilisé aujourd'hui, comme je disais, pour les alternatives aux poursuites. Et ça fait 20 ans que ça existe. Donc, ça va être un espace où ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont être confrontés à leurs actes et on va essayer de les encourager à prendre leurs responsabilités. Donc ça, c'est quand même une partie qui est assez essentielle dans le traitement des auteurs de violences faites aux femmes. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir, et on va le retrouver un petit peu dans les autres pistes, mais c'est l'insuffisance quant au traitement en fait, profond des représentations de genre et dans l'aspect social, structurel, en fait, des violences de genre qui s'expriment à travers ces violences conjugales. Et en fait... Ce qui est assez intéressant dans ces stages de responsabilisation, c'est que, par exemple, le prérequis, on dit que ces stages ont pour objectif que les auteurs se disent responsables de leurs actes. Et en fait, le prérequis pour que les auteurs y aient accès, c'est qu'ils reconnaissent leur culpabilité. Et alors, c'est un peu biaisé parce que finalement, on leur dit soit vous faites un stage de responsabilisation, mais il faut que vous reconnaissiez votre culpabilité, soit... vous ne reconnaissez pas votre culpabilité, mais potentiellement, il n'y aura pas d'alternative aux poursuites. Donc, il y aura une poursuite pénale et la sanction sera plus importante. Donc, ça biaise déjà l'entrée dans le stage.
Non, mais ça biaise aussi même la prise en charge, tout simplement. Enfin, que ce soit le stage ou d'autres prises en charge. Je veux dire, c'est comme... maintenant, il y a toujours cette chose-là, même pour les longues peines, c'est exactement pareil. Il faut qu'ils reconnaissent qu'ils ont leur responsabilité et le regret... de leur acte pour avoir la possibilité de sortir. Donc on est toujours dans cette logique qui fait que tu peux pas te soigner, tu peux pas avancer sur ton propre parcours individuel, mais aussi collectif. C'est-à-dire la société ne peut pas s'interroger elle-même aussi sur comment elle produit elle-même de la violence. Je veux dire, c'est un peu, on peut pas se soigner malgré soi, quoi. Je veux dire, ça, on le sait, les psys le savent, tout le monde le sait.
C'est un peu comme les injonctions de soins aussi, en fait. Ben oui, ça recoupe aussi en partie absurde, cette question-là. Bon. Et puis le deuxième point des stages de responsabilisation, mais qu'on retrouve aussi dans les groupes de parole, d'autres choses dont on va parler dans le cadre des centres de prise en charge, mais c'est la possible présence de femmes dans ces stages-là, en tant qu'auteur, qu'autrice du coup de violences conjugales. Et en fait, c'est en termes de nombre relativement minoritaire, mais en réalité, c'est pas si anecdotique que ça, parce que ce que ça veut dire, c'est qu'on pense cette violence par rapport au lien conjugal, en fait. Entre les deux personnes. Et on pense pas, on caractérise pas cette violence par rapport à la question du genre. Donc le fait qu'une femme puisse se retrouver dans ces stages de responsabilisation ou ces groupes de parole, finalement, ça montre qu'on aborde la question juste sur le fait que la spécificité de la violence qui vous lie tous les deux, c'est votre lien conjugal, mais pas par le fait qu'en fait, c'est une violence commise par un homme sur une femme.
Après, par rapport à ce que tu dis, ce qui est tout à fait intéressant, mais ça, c'est vraiment des questions aussi qu'il faudrait arriver à creuser, parce qu'on se rend compte aussi que la violence, les viols, la violence, elle se passe essentiellement par rapport aux proches. Hein, même le viol, c'est le père, l'éducateur, le prêtre, le frère. On est quand même dans une sphère assez proche, amicale ou familiale. C'est souvent dans ce cadre-là que s'exerce la violence. Donc il y a eu aussi dans les années 70 beaucoup d'ouvrages sur la question en quoi la famille ou le couple produisait en soi de la violence, qui serait peut-être intéressant de continuer aussi à fouiller. En plus des violences de genre, tout à fait. Ok, mais alors on peut attaquer maintenant les centres. Okay. Allez, on attaque les centres. Il ne reste pas beaucoup de temps. On savait qu'on n'aurait pas le temps d'aborder tout, parce qu'il y a plein d'autres sujets dans le dossier qui sont plus ou moins c'est abordé de manière assez rapide, mais c'est que ça creuse des pistes, on va dire. Donc il y a ces centres de prise en charge des auteurs de violences conjugales.
Ouais.
Donc, est-ce que tu peux nous dire combien il y en a, combien ça peut accueillir combien de personnes, et puis c'est quoi leur objectif, quoi ?
Oui, alors peut-être assez rapidement, donc les centres de prise en charge des auteurs de violences conjugales, il y en a une trentaine aujourd'hui à peu près. En 2022, ils ont accueilli autour de 14 000 personnes. On est sur un dispositif assez récent qui date à peu près de 2020. Ce qui est intéressant dans ces centres de prise en charge, c'est qu'en fait, c'est accessible dans le cadre judiciaire, mais aussi hors du cadre judiciaire. Alors, très principalement, ça va être fait sur une orientation judiciaire, donc là aussi en alternative aux poursuites. 9 fois sur 10 à peu près, quand c'est orienté par le juge, c'est une alternative aux poursuites. Ça peut aussi être fait dans l'attente du jugement. Potentiellement, mais c'est plus rare, quand on parlait des peines de prison en sursis. Donc il y a ce qu'on appelle le sursis probatoire. Donc ça veut dire qu'il y a du sursis, mais derrière, il faut quand même respecter quelques conditions. Donc il peut y avoir ça comme type de condition, d'être suivi dans un centre de prise en charge. Et ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est que ces centres de prise en charge sont ouverts à des personnes qui ne rentrent pas dans le cadre judiciaire, c'est-à-dire qu'un homme qui se rendrait compte une problématique de violence dont il est l'auteur dans le cadre conjugal, il peut s'adresser à ces centres pour être pris en charge. Ces centres, en tout cas, ceux qu'on a pu rencontrer, ils insistent assez fortement. On est sur une prise en charge de 4 à 6 mois, je crois que je ne l'ai pas précisé, mais sur l'importance de la prise de conscience, mais du fait que, voilà, eux, ce sont des... Alors, je caricature peut-être un peu, mais c'est des sortes de plateformes, si vous voulez, qui vont essayer de réunir tous les acteurs du territoire qui travaillent sur ces questions-là pour essayer de coordonner un petit peu la prise en charge et espérer qu'avec un accompagnement individualisé sur ces 4 à 6 mois, évidemment, eux, ils disent pas du tout, ça nous laisse le temps de résoudre la problématique. Par contre, l'idée, c'est on va réussir à déclencher le petit truc qui va ensuite encourager la personne à poursuivre le travail. Intervenant, il parlait de béquille. Voilà, on aura mis une béquille qui lui permettra d'avancer et d'essayer de poursuivre son travail, tout simplement.
Ouais, d'accord, ok. Ok, je voulais juste revenir sur une expérience comme ça, moi, qui m'est revenue dans les années 70, notamment aux États-Unis, parce qu'il y a eu pas mal d'expérimentations, là, pour le coup, mais qui consistait à faire parler à la fois les femmes qui ont été l'objet de violences, mais aussi les hommes qui ont exercé de la violence, et se faire rencontrer ces différentes personnes pour faire prendre conscience aux auteurs des impacts de ce que ça produit chez une personne. Parce que ce soit un viol ou de la violence, après, il y a des séquelles et qui peuvent durer toute une vie. Donc, il y avait des groupes comme ça de paroles qui étaient constitués pour faire se rencontrer dans un cadre précis, etc. Et je trouve que c'est pas mal intéressant parce que là, on a l'impression que c'est toujours l'État, l'institution qui gère hein, qui gèrent ces problématiques-là et qu'on donne très peu d'espace finalement, que ce soit aux personnes qui ont été l'objet de violences, que ce soit les auteurs qui s'interrogent à leur niveau sur sur le passage à l'acte de violence. Et je voulais juste dire ça parce que ça pourrait être des pistes aussi qui sont assez intéressantes et qui dépossèdent un peu moins et les auteurs et les victimes. Voilà.
Oui, bien sûr. Enfin, ce type de ce qu'on appelle la justice restaurative, je pensais à ça. Oui,
mais ça
n'existe
pas pour l'instant. Enfin, en France, ça n'existe pas.
Alors, le fait de faire rencontrer des auteurs avec des victimes de même fait, mais qui ne sont pas l'auteur de la victime et la victime de l'auteur, ça existe aujourd'hui. Il y a ce film dont tout le monde a parlé. Nous verrons toujours au visage.
Je ne verrai plus jamais au visage.
Ah voilà, pardon. Mais effectivement, par contre, ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, ça ne vient pas du tout en alternative à la réponse pénale. C'est des choses qui s'ajoutent.
En
qui
plus.
Sont, alors, sur la base du volontariat, ce qui ça, serait plutôt a priori une bonne chose, qui est sur la base du bénévolat, par contre, et ça qui réduit quand même considérablement l'accès à ces dispositifs-là. Mais c'est important bien de se rappeler qu'on est sur un dispositif en plus et pas du tout un dispositif alternatif.
Oui, c'est-à-dire qui n'empêche pas l'incarcération. Donc, il y a la personne, elle, va prendre sa peine de prison et parallèlement... Si elle le souhaite ou si elle est un peu obligée pour essayer de réduire sa peine.
Bah ça peut être d'ailleurs quand elle est incarcérée ou pas. Hein, y a pas de nécessité à ce que la personne soit incarcérée pour qu'il y ait ce type de dispositif. Enfin, c'est un sujet sur lequel il y a sûrement énormément de solutions. Et en tout cas, énormément de pistes à explorer et qu'il n'y en a très probablement pas une qui pourrait être considérée suffisante. Parce que tout à l'heure, on parlait un petit peu de ce qui existe aujourd'hui, les stages, les centres de prise en charge. Évidemment, c'est assez critique parce qu'on ne met jamais suffisamment de moyens. Mais c'est aussi parce qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'un type de réponse permette de résoudre l'ensemble
de la problématique. Bien sûr. Ouais. Peut-être qu'il faudrait juste essayer juste effectivement de se dégager de ce jugement, de cette vision un peu procureur d'envisager les problématiques et essayer de réfléchir à comment faire avancer réellement, concrètement ces questions-là en dehors de la répression, la stigmatisation et l'enfermement. Mais c'est un vrai chantier. Hein.
C'est un vrai chantier, mais aussi parce qu'aujourd'hui, la réponse pénale, elle est quand même très principalement sur une responsabilisation individuelle. Ce qui est un peu le propre de la réponse pénale, hein, d'ailleurs.
Ouais,
donc,
bah,
c'est
carrément.
Pas absurde. Mais en tout cas, sur cette problématique-là, du coup, on met de côté tout le côté structurel... de ce qui provoque ces violences-là. Et en fait, on ne peut pas s'attendre à ce qu'une prise en charge courte, et en particulier sur les stages dont on parlait d'un jour et demi et deux jours, change la donne là-dessus. Enfin, c'est vraiment sous-estimer le problème auquel on fait face.
Carrément.
Et je voudrais juste mentionner qu'il y a des études assez intéressantes à l'étranger qui ont montré qu'en fait, les programmes courts de quelques jours, ils ne réduisaient pas le taux de récidive, voire qu'ils étaient susceptibles d'avoir des effets contre-productifs parce qu'en fait, on mettait ensemble des auteurs de violences qui finalement, allaient plutôt se soutenir les uns les autres et qu'il fallait vraiment miser sur des programmes longs qui, au-delà de la responsabilisation individuelle, étaient vraiment sur une perspective genrée de questionner la place qu'on peut avoir en tant qu'homme ou femme dans la société. Et ça nécessite une prise en charge globale.
Carrément. Ben, écoute, on va être obligé de se quitter pour aujourd'hui. Mais enfin, là, on ouvre un chantier. C'est pas du tout évident comme problématique. Mais on va le continuer en tous les cas. Et merci beaucoup d'avoir en tous les cas introduit cette discussion aujourd'hui. Merci beaucoup,
Pauline,
d'être passée dans nos studios. Et on voulait juste faire une dernière annonce avant de se quitter, puisque le samedi prochain, le 25, il y a une manifestation justement, puisque c'est la journée internationale de lutte contre la violence faite aux femmes et qu'il y a une manifestation à Paris pour dénoncer ces violences.
Et je précise que pour la première année depuis plusieurs années consécutives, l'appel à manifester ne contient plus d'appel à plus de répression et plus d'incarcération, mais au contraire à un point de vue critique sur ces questions.
Et alors, je le dis quand même, c'est 14 heures nation, parce que je crois qu'on l'a pas dit.
Effectivement.
Donc voilà. Et ben à samedi prochain dans la rue, puisque c'est aussi là que ça se passe, hein, qu'on pourra faire changer les choses. Et puis, non à la prison, on va dire, ça sera jamais une solution. Continuons à réfléchir et à réfléchir différemment. Eh ben, on va dire au revoir à tout le monde. Bonne journée à vous tous. Et puis, à demain pour une nouvelle Actualité des luttes à 12h30 jusqu'à 13h30. Au revoir. Et bien, merci à Jojo et à Mathéo à la technique. Ah non, Mathéo tout seul aujourd'hui à la technique. Merci.
Bon, je ne vais pas faire durer le suspense. Le flic a été relaxé totalement.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là à des revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects.
Vous écoutez l'actualité des luttes,
comme tous les jours du lundi au vendredi,
de 12h30 à 13h30,
sur FPP,
fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Et là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, monsieur.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie, là, sur nos petits, avec nos petites idées, dans nos petits coins, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.